Bienvenue Francis dans cette bande originale.
Merci beaucoup.
Merci. La BO de la matinée va vous accompagner jusqu'à 12h30. Il est au théâtre depuis le 3 septembre pour jouer le joueur d'échecs de Stefan Zweig en étant seul sur scène, mise en scène justement par Steve Suissa, votre pote maintenant. Ça devient une bande des trois. Eric Emmanuel Schmitt qui a adapté cette pièce. Ouais. Steve Suissa, ça fait combien d'œuvres que vous mettez en place ensemble?
6.
6. Ouais. Ah oui, donc c'est un trio infernal.
Ouais, c'est infernal, oui.
Exactement. Vous branchez aussi le dimanche, vous voyez le soir pour aller au foot, comment vous faites?
Oui, la plupart du temps. Et ben, j'échappe à la boxe parce que pour l'instant, Steve ne veut pas revenir sur...
sur un ring. Ça se passe au théâtre Rive Gauche. Alors, on rappelle pour ceux qui n'ont pas eu la malice ou le temps de lire, bien que ça se lise extrêmement facilement et d'une manière très agréable, Stefan Zweig, ce joueur d'échecs, une fable qui d'un grand champion du monde, odieux, faut bien le dire, qui prend le bateau et à bord de cette croisière, il va croiser l'échiquier avec d'autres joueurs, certains amateurs, certains passionnés, d'autres un tout petit peu arrogants parce que riches, et arrive une personne que vous incarnez aussi, vous incarnez les deux d'ailleurs, aussi bien le bonhomme odieux que celui qui a finalement, pour sauver sa vie, appris à jouer aux échecs à travers un livre. La seule manière pour lui de sortir du néant et de l'enfermement était d'apprendre des jeux d'échecs à travers un livre.
Il avait été arrêté par les SS.
Mr. B.
Et Monsieur B.
Je sais pas pourquoi je vais dire en anglais, mais Monsieur B.
Et c'est la dernière œuvre de Stefan Zweig. Il s'est suicidé après avoir adressé cette œuvre à ses éditeurs aux États-Unis, en Autriche.
Après avoir fui le nazisme.
Fui le nazisme, bien sûr. Mmh. Et puis, c'est assez extraordinaire parce qu'en fait, Zweig laisse une œuvre qui est la... J'étais complètement sidéré quand j'ai appris ça, qui est la plus lue en France. Ça veut dire que des auteurs étrangers, les traductions de Zweig, on porte le paquet. C'est absolument incroyable. Tu vas dans une librairie n'importe où et tu demandes, vous avez des œuvres de... Ah, mais arrêtez, c'est ce que je vends le plus. Pourquoi? Parce que comme
plus
on passe...
Plus que les traits inconnus, plus que 24 heures de... La journée d'une femme.
C'est-à-dire qu'à l'intérieur des trois grands héros de nouvelles, Maupassant, Stefan Zweig, etc., c'est lui qui emporte le morceau dans le monde entier.
Mais vous, Francis, après chaque représentation, vous n'avez pas d'envie morbide?
écoute, c'est très bizarre parce que je m'attendais pas du tout, puisque je vois pas le spectacle assis de la salle. Je m'attendais pas du tout qu'il ait.
Schizophrène, mais pas totalement. Alors.
Pas totalement. C'est qu'il ait l'atmosphère, si tu veux, typiquement de Mort à Venise. C'est-à-dire que le costume de Pascal Bordet, il est blanc, il est magnifique. Mmh. J'ai essayé de physiquement. Steve m'a demandé de ressembler à Zweig sans avoir la moustache, puisque j'interprète plusieurs personnages.
Les lunettes, c'est Stefan Zweig.
C'est Zweig. Et puis. Je porte aussi, tout à fait, ça, par superstition, les boutons de manchette de Jean-Claude Brialy que Pascal m'a apporté. Le décor de Stéphanie Jarre représente donc le bateau, le navire, et la musique de Maxime Richel, mais elle est magnifique parce qu'elle est elle est justement cinématographique.
Et mais on n'a toujours pas les envies morbides.
C'est-à-dire que à l'intérieur de la pièce qui dure donc une heure et demie, si tu veux, il y a
même
vraiment
pas.
Une demi-heure. Où ce héros, Mr. B, c'est vraiment le Peter O'Toole dans La Nuit des Généraux, c'est la folie. Donc c'est très difficile pour moi, parce que je dois presque sortir tout en ayant une élégance.
Est-ce qu'on peut résumer, Francis, parce que c'est malheureusement l'actualité, que cette pièce revient peut-être encore plus au goût du jour et passionne les lecteurs, parce que c'est vraiment l'opposition entre la barbarie d'un côté et la culture et l'intelligence de l'autre.
C'est-à-dire que ce qu'on vit aujourd'hui comme nazisme, avec tout ce qui se passe et la guerre qu'on déclare et tout ce qui se passe dans le monde, c'est ce que lui a vécu sous une autre forme, sous d'autres uniformes. Mais son texte est tellement déchirant que le public, et je t'assure qu'il y a tous les publics, on le sait, tu peux regarder sur Google.
Je vais jamais sur Google.
T'as les critiques des spectateurs par dizaines. Les gens sont sidérés par la modernité de ce texte.
Il y a un autre événement, pardon Leïla.
Pardon, et quand on joue Francis Huster, une pièce comme celle-ci qui a un tel reflet dans l'actualité, est-ce que c'est plus dur à porter?
C'est très dur à porter, parce que moi j'ai mes convictions personnelles par ce qui se passe dans le monde, et chaque soir je me dis que je joue pas seulement pour le public de théâtre, mais pour ceux qui justement, dans le monde, se font tuer, se font assassiner, se font égorger, se font pulvériser, et tout le monde se retrouve exactement comme en 1930-1940, à deux doigts d'une guerre mondiale.
C'est pour ça que vous dites... comme vous aviez fait votre spectacle sur l'Europe...
Oui. À travers des textes de Hugo.
Oui, c'est ça, exactement. Mmh. Et Pierre, c'est vrai que nous, on est là pour divertir les gens, les divertir dans l'émotion comme dans le rire. Mais c'est vrai que je me rends compte que le public fait un triomphe à ce spectacle parce qu'il le joue en même temps que moi. Les gens n'acceptent plus d'être là paralysés. Ils veulent rentrer dans une guerre, pas seulement une guerre malheureusement mondiale entre guillemets, mais une guerre personnelle. Ils ne peuvent plus tolérer qu'on les humilie, ils ne peuvent plus tolérer que les chrétiens soient assassinés sans qu'on réagisse, ils ne peuvent plus tolérer qu'il y ait la guerre entre la Palestine, Israël, que ça compte. Ils ne peuvent plus. Il y a le bouchon à sauter.
C'est comme un devoir donc de faire cette pièce pour vous, parce que vous avez déclaré, je crois que c'est une erreur de jouer seul au théâtre. Je suis toujours persuadé qu'il faut partager et défendre un texte à plusieurs, à moins qu'il y ait une importance capitale du point de vue artistique ou politique.
Voilà, c'est exactement ça. Et je pense que Eric
Vous êtes d'accord avec vous.
Oui, c'est-à-dire que non, c'est-à-dire que Nagui, que Eric Emmanuel Schmitt, qui est vendu dans le monde entier, qui est un énorme succès mondial.
Ah, ça, c'est un sacré vendu.
Salaud.
Il a eu ce courage de s'attaquer à ce texte, et moi, en tant qu'acteur, je suis assez. Je lui tire un grand coup de chapeau comme à Steve Suissa, parce que je me retrouve à l'intérieur d'un film. J'ai des micros. Je pourrais pas jouer cette pièce d'une façon théâtrale. Il faut la jouer avec une telle sensibilité que...
Il faut doser la voix.
Il faut doser. Et la respiration.
Le 26 novembre, parce que l'actualité est chargée de Francis Huster, l'Orchestre Philharmonique de Prague et ses 50 musiciens sur scène seront au Casino de Paris et vous allez les présenter dans une soirée ciné-musique.
Oui, et la première idée, comment ? C'est un grand bouleversement depuis quelques années, c'est-à-dire que les grands orchestres du monde entier interprètent les plus belles musiques de films avec derrière... Oui, avec
la bande originale,
c'est un bon titre. Avec derrière les films qui défilent, c'est un succès mais planétaire. Et cet orchestre, l'Orchestre Philharmonique de Prague, a vraiment enregistré pour Hollywood. Et donc, ce sont des virtuoses, et je suis très heureux, parce que c'est un petit clin d'œil vers Otomar Krecha, qui était de Jean Villard, de Tchécoslovaquie, on disait ça à cette époque, et pas Tchéquie et Slovaquie, et je sais qu'il nous écoute de là-haut, et Otomar, tu peux être fier de ton orchestre national.
Ça sera le 26 novembre au Casino de Paris, il y a d'autres dates prévues, c'est ton tournée jusqu'au 14 décembre, le 29 notamment à Amiens, le 29 novembre, pardon, à Amiens, le 30 novembre, à Lille, le 5 décembre à Clermont-Ferrand, le 11 décembre à Bordeaux. Vous y serez aussi ?
Je serai à Évry parce que c'est à côté.
Que vous pouvez pas tout faire. Ouais,
je peux pas le faire, mais j'irai dans 2-3 endroits. Et vraiment, c'est exceptionnel.
Pierre Lescure ?
Quand j'ai été élu par le conseil d'administration du Festival de Cannes, président et successeur de Gilles Jacob,
c'est
il n'y avait,
je...
avait pas 18 secondes.
Félicitations !
Il n'y avait pas 18 secondes. Que j'avais déjà un message de Huster qui disait « Pierre, il faut absolument qu'il y ait maintenant une palme d'or pour la musique de film. » Un message de 3,50.
Ouais, c'est ça.
Ah, un autre texto de Francis Huster, je confirme. Et c'est pas la peine de m'envoyer un mail ou des textos en disant « Vous pourriez éteindre votre portable pendant l'émission. » C'est une vanne. Pierre Lescure, justement, puisqu'on parle de cinéma et de musique, l'un des grands bonshommes de la musique et aussi du cinéma, ça a été Gainsbourg. Et là, il y a une nouvelle incroyable qui est arrivée récemment.
Il y a une nouvelle qui est incroyable avec plein d'entrées. Ça va amuser Francis et tous ceux qui nous écoutent. Parce que cette nouvelle, on la doit à un fan de Gainsbourg. Ça se passe, son histoire se passe en 87, il y a un paquet de temps, il y a 27 ans, à la FNAC. Et il y a un forum, comme souvent la FNAC en fait,
des
et
rencontres,
on faisait encore beaucoup, des rencontres. Il y a Alain Weiss, qui est un grand chroniqueur de rock à l'époque, et encore aujourd'hui, qui interroge Gainsbourg.
Ah,
et ce
bon
jeune
art.
Homme, alors qu'aujourd'hui ce serait d'une banalité absolue, tout le monde aurait son téléphone portable.
Ce qui n'était pas le cas en 87,
homme,
rien.
Il a une petite caméra,
il filme.
Qui est à bande, et il filme toute l'interview. Et pendant 27 ans, il se l'est gardé. Il y a un bout de temps déjà qu'on peut mettre ça sur les...
Clairement.
Et lui, il s'est dit, j'ai envie de la faire partager. Et vous pouvez vous la retrouver aujourd'hui, au moment où on vous parle, vous pouvez la retrouver sur la page Facebook de la bande originale. Mais ce jeune homme, enfin cet homme encore jeune, fan de Gainsbourg absolu, a enregistré et maintenant, il la partage. Alors on retrouve un Gainsbourg, vous allez voir, mais allez le voir sur la page Facebook
de l'émission. Ça ouvre déjà la première vanne, c'est quand il y a quelqu'un dans le public qui fait « Serge, une chanson !» Et la réponse de Gainsbourg, c'est « T'as eu le pognon ?»
Exactement. À un autre moment, il y a un petit môme qui crie dans la salle, il lui dit « Ta gueule !» Parce qu'il est un petit peu imbibé, il a des lunettes de soleil, la clope au bec. Et puis après, il parle pendant 5 minutes avec le gamin. Toujours à propos du blé, il sort tout un paquet de fric. Il le soupèse, il dit tiens, on dirait qu'il en manque un. Bon, enfin bref.
Et, Gainsbourg, et puis, quoi.
C'est Gainsbourg. Ouais. Et t'as raison, Nagui, de parler de cinéma, parce qu'à un moment, il évoque sa vie, et puis il adore les références. Mm-hmm. Comme tout homme de spectacle, il a des vraies références de culture, et lui, pour le cinéma, c'est Truffaut. Et il a cette phrase.
Truffaut a dit avant de casser sa pipe, a dit Gainsbourg, il finira dans les cinémathèques.
C'est pareil pour la musique, c'est pareil pour le cinéma. Dès qu'il filmait, il disait, t'as vu, j'ai pris telle caméra comme machin, j'ai pris tel angle, j'ai fait tel plan. Et quand il peignait, il disait, il avait honte un peu de sa peinture, il était complexé, alors que c'était sa passion première. Et il disait, non mais jamais j'aurais pu faire comme Cranach, donc j'ai préféré arrêter.
Allez le voir, hein, c'est sur la page Facebook de la bande originale, et c'est un document vraiment exceptionnel, d'autant plus qu'il a été, entre guillemets, non pas caché, mais en tout cas gardé...
Ça vachement extra que
non, c'est bien.
Ce
c'est généreux.
Garder ça
c'est
si généreux. Longtemps.
Écoute, juste une anecdote. On joue Don Juan à la compagnie Renaud Barrault, théâtre du Rond-Point, bourré. À ce moment-là, la salle était énorme, 1300 personnes. Gainsbourg est au premier rang.
Bourré lui aussi.
Il y a Fanny Ardant, il y a Jacques Weber, il y a Jacques Piesser, il y a toute la troupe, Isabelle Lanty. Et on commence, et au bout de 10 minutes, il se relève de son siège. Et parce qu'il y avait un peu de bruit, de machin, de trucs, il se lève et il dit, mais très fort devant tout le monde, « Mais quoi, merde, c'est Molière quand même, vos gueules !»
À propos de Molière, c'est vrai que c'était le nom de la sage-femme qui vous a mené
René Barbini Molière.
C'est formidable. C'est formidable. Francis Huster est né et la sage-femme s'appelle Molière. C'est juste dingue, ça. C'est juste dingue. Vous, à propos d'enfants et de naissance, vous êtes papa.
Oui.
Est-ce que dans votre carrière, dans votre manière de travailler, vous avez senti une différence entre l'homme, le comédien, l'homme de spectacle que vous étiez avant et après la paternité? Est-ce que la paternité a changé quelque chose
Ça a changé dans le sens où dès que mes filles sont venues, même quand elles avaient 3 ans ou 5 ans ou 6 ans, elles étaient très critiques. Je me souviens de réflexions de Toscane, m'engueulant,
Toscane est votre dernière qui a 11 ans.
Oui, elle a 11 ans, Elisa 16 ans. Et en fait, elle me reprochait de jouer théâtre, quoi. Et elles avaient raison. Mais parce que je correspondais à une époque des années 60-70.
Jouer théâtre, c'est...
Exactement, comme ça. Ouais. Tu vois, parce qu'on entendait mal dans les théâtres. On était obligé de phraser, de soutenir la finale et tout.
De surjouer, presque.
Oui, et les gens de cinéma, les réalisateurs disaient, moi, je prends pas des acteurs de théâtre, je veux des gens comme dans la vie. Et c'est vrai que ma rencontre avec Steve Suissa était formidable de ce point de vue-là.
Mais il paraît que quand vous disputiez Pierre. Vos filles, quand vous les grandiez théâtre.
Va, je ne te hais pas. Alors nous avons Jérôme Ballarin qui est en ligne parce que justement il y a des études extrêmement sérieuses qui sont faites. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour Nagui.
Bonjour, soyez le bienvenu dans cette bande originale. Alors pour présenter Jérôme, il est président de l'Observatoire de l'équilibre des temps et de la parentalité en entreprise et membre du Haut Conseil à l'égalité entre femmes et hommes. Parce que justement, on a beau dire qu'on n'est pas égaux dans le monde du travail, on ne l'est pas non plus dans la paternité et la maternité. Est-ce qu'il y a du bon à être papa déjà? Est-ce que ça stimule une carrière?
Moi-même, je suis papa et voilà, et comme Francis Huster, j'apprécie fortement ce rôle, et les études montrent que on a une aspiration grandissante chez les hommes à devenir père et à exercer une paternité active.
Et à l'inverse, être une maman, est-ce que ça aide ou ça ralentit sa carrière?
Alors, des études montrent là aussi que malheureusement, les stéréotypes sont encore vivaces dans l'entreprise et que quand on devient mère, on est davantage pénalisé que quand on devient père.
On va être avantagé
dans sa carrière.
C'est quoi? C'est simplement parce qu'on est en congé maternité et puis on réintègre la société alors qu'elle a évolué toute seule pendant plusieurs mois. C'est que ça ou c'est autre chose?
Quand on compare les pères et les mères, finalement, on a l'impression que les hommes bénéficient d'une présomption de meilleurs professionnalistes quand ils deviennent pères, donc.
C'est pas faux.
Alors que les femmes vont être considérées comme moins investies, préoccupées par leur vie personnelle. Mais tout ça, ce sont des stéréotypes qui sont démentis par la réalité.
Ce que j'allais dire, il n'y a aucune étude qui dit qu'une femme qui est maman va être moins concentrée au travail parce qu'elle va se poser la question de savoir si tout va bien pour ses enfants.
Écoutez, non.
Rien ne prouve.
C'est plutôt des études auprès des employeurs pour voir s'ils discriminent, parfois sans apercevoir, des hommes avec enfants.
Et les employeurs, sont majoritairement des hommes, c'est ça. Donc pour eux, on gère une entreprise en bon père de famille. Donc finalement, est-ce que c'est pas un peu faussé comme étude? Pardon.
Oh là là, comment elle a cassé l'ambiance.
Les dans les entreprises qui recrutent
sont féminisées.
Hein, donc les stéréotypes, à mon avis, sont partagés assez largement par les hommes et les femmes, malheureusement.
Voilà. Et on est d'accord, rien de médical, entre guillemets, ne vient corroborer cette discrimination.
Non, rien. Et d'ailleurs, même les faits la contredisent, puisque je pense à un chef d'entreprise qui me disait que les femmes qui étaient mamans à temps partiel dans son entreprise travailler beaucoup plus efficacement pour compenser la perte de salaire du fait de travailler à temps partiel et regagner finalement en primes variables davantage de salaire et du coup était plus efficace que des hommes, même pères. Bah,
formidable
à la femme est vénale.
Donc Daniel, il reste plus qu'une chose, il va falloir faire un enfant à Leïla pour qu'elle soit encore plus efficace en travail.
Alors j'ai vraiment pas besoin qu'on me fasse d'enfant, pitié.
Merci Jérôme Ballarin, on restera sur cette phrase positive et cette analyse positive. Merci Jérôme, bonne journée.
Merci à vous.
Francis, vous êtes fan de foot, tout le monde le sait. Est-ce que ça a été mal vu entre guillemets pendant une petite période dans votre métier? C'est-à-dire être à la Comédie Française que vous étiez avant d'en partir, au bout de la quatrième démission.
Oui,
la quatrième fut la bonne. Ouais. Est-ce que c'était mal vu? Est-ce que c'était une passion qui finalement vous cachiez parce que ça le fait pas quoi. Aimer le foot et aimer Molière, c'est deux choses qui n'allaient pas ensemble dans le regard de certaines personnes.
À l'époque, oui. D'autant plus qu'à l'époque, il faut se rappeler le drame du Heysel, où il y avait eu des morts à la finale de la
Juventus.
Juventus contre Liverpool. Plus dans les stades aussi, les hooligans anglais, etc. C'était mal vu quoi. On avait l'impression que t'aimes le foot, donc t'es plus ou moins pro-loi tardé quoi. Qu'est-ce que ça, ce pauvre type. Et en fait, je crois que le déclic, mais c'est subliminal. Mais ça, il faudrait demander à Pierre aussi, qui est un grand spécialiste. J'ai beaucoup discuté avec Pierre au point de vue du foot. J'ai même perdu que des paris avec lui. je crois que ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, le foot a tué le racisme.
Ah, carrément.
C'est-à-dire que tout d'un coup...
Il va falloir rejouer au foot, alors.
Non, mais c'est-à-dire que tout d'un coup, tu t'es aperçu qu'ils avaient dépassé la ligne rouge, qu'en Italie, tout ce qui se passait dans les stades, de scandaleux vis-à-vis des Noirs, vis-à-vis de tout.
Mais ça continue quand même.
Ça continue, mais ça paraît ridicule. Mmh. Ça veut dire que ça paraît honteux, alors qu'avant, c'était le contraire. On avait l'impression, fermez vos gueules, c'est nous qui avons raison, vous êtes des porcs, des trucs. Et le fascisme italien sur les stades, et ce qui s'est passé grâce à l'équipe de France, fait que tout d'un coup...
Celle de 98, surtout.
Celle de 98, et c'est pas une plaisanterie. C'est-à-dire que tu t'aperçois tout d'un coup que dans l'équipe d'Allemagne, dans l'équipe d'Italie, dans les équipes qui, au départ, paraissaient plus ou moins portées vers, justement, le côté régie des fascistes, pas du tout. T'as des joueurs de toutes les races, de toutes les religions. Je crois que le foot a vraiment fait avancer la lutte contre le racisme.
Et puis c'est un partage, le foot. Jouer seul, on va pas très loin. C'est un jeu d'équipe, donc c'est un jeu de partage. Si vous avez une passion, vous aussi, qui a été, ou qui ne l'est plus en tout cas, mais qui a été cachée ou honteuse, témoignez, racontez-nous au standard de France Inter, 01 45 24 7000, si vous avez une passion honteuse ou mal vue dans votre entourage, ça peut nous intéresser. Non, parle pas d'Étienne, Daniel Morin. 01 45 24 7000. Dans quelques instants, nous aurons, je le rappelle, à 11h30, la bande originale de la vie et de l'œuvre de notre invité Francis Huster. Mais je rappelle qu'il est au théâtre Rive Gauche, pour interpréter Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, adapté par Eric Emmanuel Schmitt, mise en scène par Steve Suissa. Il est temps d'avoir du live dans cette émission à 11h24. Ils sont numéro 1 dans 35 pays. J'ai eu la chance de les accueillir pour leur premier album dans Taratata, pour le deuxième aussi. J'ai hâte que le troisième arrive, comme ça on refera Taratata ensemble. Mais là, ils sont là pour fêter ces 35 numéro 1. C'est absolument formidable. Nili et Benjamin, plus connus sous le nom de Lilywood and the Prick, avec My Prayer in C, qu'on pourrait traduire par ma prière en Do, puisque si j'ai bien compris, la lettre C correspond au Do en anglais. C'est parti, les voici en live dans la bande originale. Thank you.
hands will get more wrinkled and our hair will be gray. Don't think I can forgive you. Yeah, see, the children are starving and their houses were destroyed. Don't think they can forgive you.
Prayer in Sea, donc Lilywood and the Creek, avec une histoire incroyable. Il y a 8 ans, donc Nili et Benjamin se rencontrent. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'était où, Nili ?
C'était dans un bar parisien qui s'appelle le Pop-In.
D'accord, il va falloir mettre une plaque dans cette... Tiens, Benjamin, si tu veux intervenir, je t'en prie, prends ce micro-là, je t'en prie. Donc vous rencontrez, vous composez un premier album assez rapidement où il y a le fameux Hey, It's OK, pour lequel on s'était rencontrés. Vous avez une victoire, la victoire révélation du public, avec des larmes dans la voix de Nili. Benjamin qui salue Pierre Guimard, c'est le premier nom qui t'est venu à l'esprit d'ailleurs.
C'est vrai, c'est
C'était Pierre, si j'ai bonne mémoire. Et puis arrive donc, et sur cet album, il y avait aussi cette chanson Prayer in Sea qui passait, mais qui passait pas comme elle passe maintenant, c'est-à-dire un tube mondial, 35 pays. Et puis là, ils viennent d'être numéro 1 en Angleterre devant David Guetta, c'est trop la classe. Moi, j'ai envie de dire bravo. Moi, j'ai envie de dire bravo. Est-ce que c'est ce Robin Schulz qui a fait ce remix, vous le connaissiez ou vous l'avez appris par Internet, Benjamin ?
On le connaissait pas. C'est vraiment Internet qui nous a parlé de lui, en fait.
Et c'est le même syndrome que ce qui est arrivé à Azaf Avidan, c'est-à-dire un DJ, en l'occurrence allemand, alors c'est pas le même, hein, c'était un autre pour Azaf, reprend une chanson et l'artiste la découvre. C'est un truc à la mode.
Là, ça s'est fait un petit peu différemment parce que lui a décidé d'intégrer le morceau à son album, ce qui fait qu'on a vraiment quand même communiqué et travaillé ensemble pour commercialiser le morceau et que le morceau reste ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris juste un bout de voix.
Ouais.
Oui, voilà.
Parce que Azaf Avidan, lui, a moins bien vécu, étant donné que sa chanson était d'abord une chanson extrêmement forte, prenante et triste sur l'histoire qu'il avait traversée avec sa maladie grave. Il n'avait pas envie que les gens tapent des mains et dansent sur ce genre de mélodie. Est-ce qu'on se pose ces questions-là aussi, puisque les paroles restent sérieuses, voire graves, sur l'état de notre planète ou l'état de nos cœurs dans cette chanson. Vous, ça ne vous dérange pas que ça devienne un remix dansant ?
Ben non, parce que nous, on a l'impression que notre morceau est respecté, puis on est très content que les gens puissent le découvrir d'une façon ou d'une autre. Et puis, il a quand même gardé la guitare de Benjamin, gardé la voix, gardé les paroles intactes.
Respectez votre travail d'artiste.
Ouais.
Parfait. Tout à l'heure, vous serez là pour une reprise de Santigold que vous allez nous offrir. Et c'est le même principe d'ailleurs, c'est que la chanson que vous allez chanter tout à l'heure, le titre n'est pas dans le texte. Un peu comme Prayer in Sea, où le titre n'est pas dans le texte.
Et là, on n'y est pour rien parce qu'on ne l'a pas écrit.
Non, mais Prayer in Sea, le titre n'est pas dans le texte.
C'est vrai. C'est
vrai. Merci beaucoup, Lilywood. À tout à l'heure.
Merci.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
Si vous aussi vous avez une passion honteuse entre guillemets ou mal vue, racontez-la au 01 45 24 7000. Notre invité est Francis Huster. Il interprète le joueur d'échecs de Stéphane Zweig au théâtre Rive Gauche, adapté par Éric Emmanuel Schmitt, qui était venu nous en parler d'ailleurs à ce même micro. Mise en scène par Steve Suissa. C'est d'ailleurs au théâtre Rive Gauche. C'est un petit théâtre mignon et c'est juste avant la pièce interprétée ensuite
par
Georges
David
et Georges.
Sardou, voilà. Et Alexandre Brasseur. Une comédie délirante sur Fedot.
Et alors que pour y être allé, vous croisez dans des coulisses extrêmement rikiki, ça va extrêmement vite,
ouais.
Mais c'est très rock'n'roll, et puis dans une bonne ambiance familiale, j'ai l'impression.
Ouais, non, mais c'est un théâtre qui est tel qui naît en fait depuis quatre ans et
qui voilà, sent bonheur. Encore la peinture fraîche et qui a quand même gardé les ondes.
Les toilettes sont magnifiques
top.
Maintenant.
Ah,
se refait.
Et c'est là où on voit que c'est un bon théâtre.
C'est là où on voit que c'est un bon théâtre.
Mais en Pierre, plus, non seulement Eric Emmanuel Schmitt l'habite. Il a déjà changé et cette petite salle devient une petite merveille. Mais pour ceux qui habitent Paris ou ceux qui viennent, qui passent par Paris, il faut aller rue de la Gaîté au théâtre Rive Gauche parce qu'il est, c'est un
toute
des
la
plus
rue
beaux
est magique
qui soit.
Ouais.
Non mais,
toute la rue est magique.
Toute la rue est magique.
Il y a Bobino, il y a des troquets, très sympa.
Il y a le plomb du Cantal avec Marinette.
Mais rentrer dans le théâtre Rive Gauche, ouais. C'est déjà rentrer dans le guignol de son enfance pour découvrir le théâtre.
Ouais, joli ça. Il est temps à 11h31 de s'intéresser à la bande originale de notre invité. On va écouter en musique ce qui a pu, comment dirais-je, parcourir votre vie privée. Notamment en 1959, on pouvait entendre Le Grand Jacques.
Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas.
Ça fout une ambiance à chaque fois.
C'est magnifique. Et je peux pas m'empêcher de tirer un grand coup de chapeau à Claude Lelouch. Brel chez Lelouch dans son cinéma justement était tellement magnifique, tellement bouleversant.
On entend le comédien dans l'interprétation là, de toute façon. C'est pas juste un chanteur. C'est vraiment un interprète au sens acteur du terme.
C'est un héros. Ouais.
Que se passait-il en 1959, Leïla?
En 59, c'est la première apparition d'Astérix dans le journal Pilote. C'est également la sortie des 400 coups de François Truffaut. Et c'est en cette année-là, pardon, qu'il y a eu un attentat de l'Observatoire contre François Mitterrand.
Alors, une triste nouvelle arrive également en 59. Votre mémé, Rose, est avec vous. Elle est en larmes. Vous vous dites, il y a quelqu'un dans la famille qui est mort.
Ouais. Et en fait, c'était un vendeur de journaux, le soir en plus. Et à la une, il y avait la mort de Gérard Philippe.
Et votre grand-mère pleurait.
Pleure,
la mort de Gérard Philippe. Vous étiez presque rassuré que ce soit pas quelqu'un de la famille, quelque part.
Oui, et puis quand j'ai vu la photo avec ce visage si jeune, j'ai dit mais c'est qui Gérard Philippe? Parce que en plus les films de Philippe, je les avais pas vus au cinéma, parce que par exemple Les Orgueilleux avec Michel Morgan, qui est sublime. Mais sublissime.
Calmez-vous.
Non mais j'en ai marre de tout ce qu'on raconte sur les acteurs. Les acteurs de cette époque-là étaient pas sublimes par rapport aux acteurs d'aujourd'hui, mais ils étaient sublimés par la lumière, la réalisation et le rôle. Les dialogues.
Calmez-vous, Francis.
Oui, non, mais enfin, elle était magnifique. Ceux qui n'ont pas vu Les Orgueilleux, regardez-le. C'est magnifique. Et donc, voilà, ça a vraiment été un choc terrible.
Pierre Lescure?
Non, j'ai presque le même âge que Francis et je me souviens que moi, c'était Mémé Raymonde. Je rentre de l'école, j'étais fou de joie, je ne sais plus pourquoi. Et tout le monde pleure. Ma grand-mère, mon grand-père, ma mère, même raison, ouais. Gérard Philippe. Et il m'avait emmené, j'étais tout gamin. Hein. Mes parents m'avaient emmené voir Le Diable au corps.
Oh, chaud.
Quand même, c'est vrai qu'ils avaient tous les deux la beauté du diable.
Oh, magnifique.
En 1986. Les Bangles avec Walk Like an Egyptian. Et Leïla, que se passait-il en 86?
86, c'est la catastrophe de Tchernobyl. C'est également la première sélection nationale pour JPP. Et c'est aussi la première diffusion en France de la série Inspecteur Derrick.
Francis, j'espère que vous aurez apprécié l'enchaînement entre JPP qui a joué au Bayern et Derrick qui est allemand. Derrick qui est un néo-nazi. C'est pour ça que heureusement on ne verra plus jamais, enfin le comédien qui jouait Derrick, c'est pour ça qu'on ne verra plus jamais sur aucune chaîne ce feuilleton. Vous réalisez en 86 On a volé Charlie Spencer.
Oui. Avec Isabelle Nanty et
Béatrice Dalle.
Béatrice Dalle, et tous les élèves du conservatoire.
Qui joue Suzanne, qui est le prénom de votre maman.
Voilà, et il y a donc une chanson qui
c'est
est faite.
Elle a été faite, mais on l'a jamais entendue. Parce que la Suzanne, qui est le prénom de votre maman, en fait, dans le film, elle devient Suzette. Il y a un comédien dans ce film qui s'appelle Danny Briand.
Ben oui, qui faisait des petits trucs dans une pizza, et c'est Anthony Oliveres, mon assistant, qui me dit, il y a un type génial, faut absolument que tu sois dans le film. Et je le fais venir, j'ai tourné avec lui, je ne sais combien de scènes où il chantait, et le producteur a tout coupé.
Tu parles, il a chanté ça pendant le film. Je dis tu parles parce que, pardon, vous êtes réalisateur, c'est vous qui avez coupé.
Attends, mais à l'époque, est-ce que tu avais le droit de rien du tout? Tu rigoles.
Et donc cette chanson Suzette, qui a été un tube en 91,
mais oui,
était en 86, 5 ans avant, dans On a volé Charles Spencer.
Ouais, absolument.
Et ça a été coupé au montage.
Ça a été coupé au montage.
Vous avez du nez là.
Le producteur. C'est incroyable. Ah ouais, grosse erreur. 1989, on pouvait entendre dans la bande originale de votre vie. C'est la
voix. Ah oui.
Patrick. Patrick Bruel, d'ailleurs, qui sera notre invité demain ici pour parler de son film aux côtés de Sophie Marceau. Que se passe-t-il en 89, Leïla ?
Diffusion du premier épisode de la série Les Simpsons aux États-Unis, le Dalaï Lama obtient le prix Nobel de la paix et inauguration de l'Opéra Bastille à Paris.
Vous mettez en scène et vous jouez La Peste de Camus au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Mmh. Et alors là, ce ne sont pas les deux personnages que vous jouez en ce moment dans Le Joueur d'échecs.
Ouais.
Mais combien de rôles en même temps ?
47, mais c'est mon joueur d'échecs de l'époque. Hein.
On va au-delà de la schizophrénie. Là. C'est
Oui, mais c'est pas pareil, parce que là, tu te glissais dans chaque personnage, si tu veux. Tiens, je fais comme Alain. Je parle moi à la troisième personne. Bon. Alors, il se glissait.
Est-ce qu'on pourrait envoyer l'infirmière de Francis Huster, il nous fait une crise.
Ouais, il s'appelle Copal. Un grand coup de chapeau, Alain. Bon, je l'adore.
Je croyais que vous étiez fâché avec Alain Delon.
Non, je suis pas fâché avec lui. Non,
c'est lui qui est fâché avec vous.
Ben non plus.
On en parle après.
Et donc, il y avait tous les personnages à interpréter.
Mais vous dites, c'est un tournant dans ma vie.
Oui, parce que tout d'un coup...
Pourquoi ?
Ben parce que j'avais 1 million de spectateurs qui m'attendaient, je ne le savais pas, alors que la pièce devait durer 1 mois. Je l'ai joué 963 fois dans le monde. Et ça a tout changé parce que ça m'a éjecté du cinéma. C'est-à-dire que j'étais tellement pris par le théâtre, et j'ai pas arrêté, que j'ai décidé d'arrêter le cinéma. J'ai continué les grandes séries à la télé, tous les Jean Moulin, les Terres Indigo, Jean Sagol, Zina Compagnie, tout. J'ai continué parce que j'étais enclenché, j'avais des contrats, et puis c'était la popularité partout. Mais le cinéma, j'ai arrêté net. Sauf tout d'un coup des rencontres insensées, incroyables, imprévues, comme le dîner de cons ou d'autres choses.
Parlons d'Alain Delon, parce que la rumeur dit que vous aviez eu des relations extrêmement complexes en jouant en Variation énigmatique. C'était en 1996. Oui. Et en 96, on pouvait entendre cette musique. En 96, parce que... restons dans la bande originale quand même. C'est le nom de l'émission. Et alors, sur cette musique, dites-moi,
oui,
quel est le problème avec Alain Delon ? Pourquoi tout le monde dit que vous insultiez ?
Allez, dis-le.
Non, mais je crois
vous êtes fâché quand même.
On s'est un truc, il m'est pas fâché, séparé. Et puis on s'est retrouvés. Je pense que Alain, et il a raison, c'est pas Pierre Lescure qui va nous contredire. Je crois qu'on a été assez dégueulasse avec Alain Delon comme avec Brigitte Bardot à leur époque, parce que c'était, et pour lui chez les hommes et pour elle chez les femmes, les deux plus beaux acteurs du monde. Même Warren Beatty n'était pas Alain Delon, il était sublime aux États-Unis, mais Alain avait un mystère, un secret, quelque chose d'énigmatique que n'avait pas Warren Beatty. Et ces deux plus grands acteurs, ils ont été mais massacrés par la critique, massacrés par la jalousie des faux culs.
Que s'est-il passé entre vous ?
Ce qui s'est passé, c'est qu'il était magnifique dans le spectacle, et qu'à la fin du spectacle, je n'ai pas pu faire la tournée, parce que j'étais pris déjà par d'autres pièces dans lesquelles je m'étais engagé. Ça nous a un petit peu refroidi.
Il a mal pris.
Et alors, il a recommencé les représentations avec Stéphane Fraisse au Théâtre de Paris. Ouais. Puis finalement, il n'y a pas
c'était
eu de
la
grande tournée. Bon, Stéphane est un acteur extraordinaire qui a fait la Comédie Française aussi. Mais je crois que Alain, il a besoin en face de lui d'avoir quelqu'un qui fait comme un combat de boxe. C'est ça qui l'excite et c'est là où il est prodigieux. Mais je suis vraiment très très près de
tout
lui.
Tout va bien maintenant. Bah, Leïla,
est-ce que vous pensez qu'Alain Delon et Brigitte Bardot ont un peu mal vieilli?
Je pense que ils se sont détachés d'eux-mêmes pour ce qui est de Brigitte dans une passion.
Non,
tu parles probablement physiquement pour Brigitte, la plus belle femme du monde.
Non, c'est pas physiquement, c'est pas pour.
Non, c'est-à-dire que
certaines prises de position.
Ah non, mais ça la regarde. Je veux dire, moi, je ne partage pas ces prises de position, sauf par rapport aux animaux. On peut pas être contre le combat que mène Brigitte.
Bien sûr, vous voyez bien que je vous parle pas des animaux.
Mais bien sûr. Mais ça, c'est son point de vue à elle, son point de vue politique. Jugement à moi,
c'est son image aussi quand elle dit moi, Brigitte Bardot, je vous encourage à voter.
Je ne partage pas son point de vue du tout.
Et Alain Delon.
Alain, je trouve qu'il a au contraire très bien vieilli.
Ah bon, oui. Sa sortie récente sur les homosexuels, sur le mariage pour tous.
Non, Alain est quelqu'un qui est piégé. Et si on lui disait exactement le contraire, il dirait exactement le contraire de ce qu'il a dit ce jour-là.
Ah
oui, certainement.
Non, il est très émotif. Ça veut dire qu'il n'a pas d'avis.
Ça veut dire que je suis gâteux. Peut-être vous
Oui, peut-être.
Je pense pas qu'il est gâteux et je pense qu'il est capable de revenir au cinéma et de faire un très grand film.
Il faudrait surtout lui rediffuser le Guépard. Ça serait.
Et d'autres choses. Et d'autres choses.
Surtout garder le Guépard. Regardez le beau souvenir d'Alain Delon quand il était jeune et qui aurait été beau. Je pense faut arrêter, c'est tout.
Non, je pense pas. Je pense pas qu'il faut arrêter. Je pense qu'il aura.
Oui, Nagui, une question. Vous voulez poser une question?
Comme Brando l'a eu dans le parrain.
Les toilettes.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Si vous aussi, vous avez une passion honteuse ou mal vue, racontez-la. Vous avez une passion honteuse, Daniel Morin?
J'adore ta ratata.
au 01 45 24 7000, on est parti du principe que pendant un certain temps, Francis Huster avait du mal à avouer ou en tout cas était mal vu parce qu'il aimait le foot par rapport à sa présence notamment aux Français. Mais c'est à vous de nous raconter maintenant ce qui se passe.
France Inter, intervenez.
Sylvie, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans la bande originale. Sylvie, quelle est votre passion?
Bonjour Nagui.
Bonjour.
Alors, moi je suis violoniste.
D'accord.
À Lille, dans l'Orchestre National de Lille.
Très bien.
Et
ouais, c'est pas le meilleur.
Ah non, c'est pas vrai, les bassards. Jean-Claude Casadesus, c'est magnifique. C'est fou ce type-là. Je suis allé de l'autre côté de la table.
L'un des plus grands.
Bon, il est magnifique.
Et donc Sylvie?
Ma fille Julia, qui a 15 ans, grâce à elle, eh ben, j'adore écouter de la musique dance. Vous savez, la musique de boîte de nuit.
Vous connaissez toute la musique, Nagui, c'est incroyable.
Je suis un jukebox, monsieur.
Human beatbox.
Allô?
Oui, non, je faisais la musique synthé. Excusez-moi, je la fais mal, mais c'est ça. Vous aimez la dance?
J'adore toujours le répertoire classique.
Mais moi, vous aimez David Guetta?
Boîte à rythme, ça me fait du bien aussi.
D'accord.
Alors, voilà. Et
ça, c'est mal vu au sein de l'orchestre.
J'ai parlé avec mes voisins d'orchestre. Ça a été la honte internationale, hein. J'ai une amie violoncelliste qui me surnomme en rigolant la verrue.
Oula, c'est violent.
Carrément,
c'est fort,
ouais. Donc si cette passion-là, bon, ben, je ne la partage pas avec mes collègues d'orchestre, au moins elle a fait beaucoup rire. Voilà.
Très bien. Merci Sylvie pour ce témoignage. Bonne journée.
Et nos
amitiés à Jean-Claude Casadesus, quand même. Nous avons un autre appel au 01 45 24 7000 pour une passion honteuse. Elle est tellement honteuse qu'il ne veut même pas donner son prénom.
Mais j'ai reconnu, moi, tout à l'heure, c'est Alain Delon.
Le monsieur, je ne sais pas. Allô, bonjour, monsieur.
Oui, Alain, bonjour.
Oui, bonjour, Nagui, bonjour.
Bonjour. Alors, je ne peux pas demander quel est votre prénom, donc, monsieur X. Quelle est votre passion?
Alors, ma passion, elle est toute simple et pas forcément honteuse pour pas mal de Français. Je boursicote beaucoup. Et je boursicote énormément.
Donc, vous placez de l'argent, vous revendez, vous spéculez, en fait.
C'est ça.
D'accord.
C'est ça. Toute la journée.
Et alors, y a plein de gens le font. Pourquoi c'est honteux? Pourquoi ça serait mal vu par votre entourage?
Est-ce que c'est votre argent ou l'argent de quelqu'un d'autre?
Excusez-moi, j'ai pas entendu.
C'est votre argent que vous placez de façon hasardeuse ou c'est celui d'autre?
C'est mon argent, c'est mon propre argent. Mais en fait, ce qui pose problème, c'est que je suis prof d'histoire géo et je suis aussi délégué syndical. Donc j'ai peur de...
C'est drôle.
C'est
parfait. C'est parfait.
Ça m'a pris il y a quelques années. C'est aussi
Monsieur X, n'en dites pas plus. N'en dites pas plus. C'est parfait. Merci, bonne journée en tout cas. Et continuez de boursicoter. C'est ce qui fait monter la bourse aussi. Enfin, je sais rien, j'y connais rien. Ou pas. D'accord, on fait signe non. D'accord, ok. Bon, toi, t'es contre. Très bien, oublions. Au théâtre Rive Gauche, Francis Huster joue le joueur d'échecs de Stefan Zweig, adapté par Eric Emmanuel Schmidt, mise en scène par Steve Suiza. Vous savez déjà jusqu'à quand vous allez le jouer? Est-ce qu'il y a des dates arrêtées?
Oui, jusqu'à fin décembre. Parce qu'après, c'est la grande tournée de l'affrontement.
D'accord.
Je voulais remercier Nouvelle Scène et Jean Martinez et Jean-Claude Land parce qu'on a une tournée magnifique
avec
de l'affrontement
David Sardou,
pour laquelle il a eu son Molière.
Absolument.
Et voilà. Donc, le joueur d'échecs s'arrêtera là. Mais je pense qu'on le reprendra après.
Ça doit être le prof que vous étiez, mais que vous restez. Parce que j'imagine que quand on l'est une fois pédagogue et qu'on veut transmettre comme ça, de voir David Sardou, que je trouve absolument incroyable et grandissant avec son expérience, il est un très bon comédien, c'est aussi un moteur pour vous, c'est-à-dire que ça vous pousse un peu au fait, si vous passez l'expression,
oui,
de voir.
Surtout qu'en plus, ce qui est curieux, c'est que le couple qu'ils forment avec Alexandre Brasseur, ils jouent, parce qu'ils sont de la même génération, de la même façon, c'est-à-dire paradoxalement extrêmement rigoureux, extrêmement strict, alors que moi c'est le contraire. Moi je fais partie d'une génération de cinglés, et donc chaque représentation pour moi c'est un nouveau challenge, elle doit être différente, il doit y avoir d'autres émotions. Donc c'est vrai, il a déclaré quand en semant son Molière que je jouais chaque soir une pièce différente, mais parce que chaque représentation
parce que
pour
vous
moi,
voulez le planter en fait, c'est tout.
Pièce... mais c'est
faut
vrai,
faut planter les genoux,
c'est ça. Tout à l'heure à 11h55, Francis Huster nous racontera ses Je n'oublierai jamais, mais comme il est 11h45, il est temps d'aller dans le dictionnaire de Daniel Morin à la page Francis Huster.
Absolument. Alors Francis Huster est né un 8 décembre, comme Camille Claudel, Sébastien Chabal, Kim Basinger et Jim Morrison. Faut-il en déduire que Francis Huster finira en chanteur rock qui plaquera au sol ses musiciens tout en se tapant un sculpteur sur la musique de 9 semaines et demie? Oui, ça me paraît clair.
Quel enchaînement.
Francis Huster est le plus grand comédien français du monde, après Alain Delon. Francis Huster possède tout le répertoire des auteurs classiques et qui, s'il le pouvait, le remercierait. Sa vie bascule le 16 septembre 2014 quand il est invité sur France Inter. Il est accueilli par Nagui, habillé en Bob l'éponge, qui dans sa loge se fait une fricassée de champignons hallucinogènes rapportés du festival de Deauville par son ami et dealer Pierre Lescure, déguisé lui en Bugs Bunny. Là, Nagui lui lance « Fais pas la gueule Gérard Philippe, prends une assiette et viens t'éclater avec nous !» Une invitation appuyée par Pierre Lescure qui rajoute « Quoi de neuf docteur ?» Consterné, Francis Huster gifle Nagui et va voir Daniel Morin, seul chroniqueur radio qu'il estime et qu'il admire, et lui dit « Moi, je ne me défonce pas aux champis. Ma drogue, moi, c'est le théâtre. Qu'est-ce qu'il est con, ce Cyril Hanouna ?» Et puis, Francis Huster repart sur un cheval blanc qu'il avait attaché à un vigile de Radio France. Les années passent et la mégalomanie de Francis Huster s'aggrave. Il devient dingue. Il n'a pas écouté les conseils de sa fille Toscane. Il ne parle plus qu'en rime de façon théâtrale et se présente partout en costume. En 2045, c'est sa dernière apparition avant qu'on l'enferme. Après avoir épousé Nabila, il est décoré d'une véritable école.
Génial, merci.
Il
sympa,
va, non
sympa.
Il arrive à la cérémonie habillé en tutu, une épée à la main, et crie à la foule rassemblée « Bonjour tout le monde, soyez en joie, ça y est, c'est bon, Francis est là. Malheureusement, je ne peux guère m'attarder, mon talent et moi-même sommes fort sollicités. Apportez-moi mon chèque en plus du livre d'or, maintenant je vous laisse, j'ai ma limousine dehors. Bisous, bisous, foule en délire, Huster s'en va, Francis se retire. » Puis il sort son épée et tue le ministre de l'Agriculture, José Bové Junior, et saute par la fenêtre. On ne le reverra plus.
Yes, yes. Vous voulez rajouter, et qu'est-ce que vous aimeriez voir dans votre définition du dictionnaire quand vous serez tout là-haut, vous aimeriez qu'on dise quoi?
Mais ce qui a mis
déjà le... comme métier.
Non, mais ce qui a mis le dictionnaire Larousse, c'est exactement ce que je rêvais. Je savais pas du tout ce qu'ils allaient mettre dedans. Ils ont mis que après justement Jeune Premier Romantique, Comédie Française, ouais. Jean Moulin, tout ça, Lorenzaccio, que je remontais les anciens textes classiques d'une façon moderne, de les mettre dans la réalité d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est ça le théâtre. C'est de pas jouer en costume d'époque et de
vous
faire à la britannique.
Vous la connaissiez personnellement, cette
rousse? Ah non, pas du tout.
Cette rousse-là, vous la connaissez pour qu'elle écrive ça?
Non,
ok, c'est la vanne Larousse, c'est pas grave, on oublie. C'est pas grave. À 11h48, retour.
Nagui a des auteurs, hein, faut
le savoir. La preuve que non.
En fait, c'était Robert.
Lui, je le connais. En live à 11h48, le retour de Lilywood and the Prick. On parlera aussi juste après de leur troisième album, parce que je suis sûr, soit il est déjà fait, soit il est pas loin d'être fait, en tout cas, ce troisième album. Il nous offre la reprise de Santi Gold. Je sais pas d'ailleurs comment on doit dire. Je dois dire L.E.S. artiste ou les artistes ou comment? L.E.S. artiste. Ok, c'est parti. C'est Lilywood and the Prick.
Things that I believe. What all. I'm here for myself, not to know you. I don't need no one else. Feeling so good, the hope is that you cannot see me later. You don't know me, I'm an introvert, an excavator. I'm ducking out for now, a face in dodgy elevators. Creep up and suddenly I found myself an innovator. I can say I hope it will be worth what I give up. If I could stand up me for the things that I believe, I could say I hope it will be worth what I give up. If I could stand up me for the things that I believe. Jane, 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 don't wanna get up out of my skin. Tell you what, if I could shake it, I'ma make this something worth dreaming of. I could say I hope it will be worth what I give up. If I could stand up me for the things that I believe, say I hope it will be worth what I give up. If I could stand up me for the things that I believe.
Qu'est-ce que c'est bien? Et c'est là où on voit, en fait, tu chantes n'importe quoi, ça devient ta chanson. C'est ça qui est vachement bien, Nili, avec cette voix incroyable que j'avais déjà comparée à Stevie Nicks, pardon pour le refaire des années après, mais c'est une très 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 belle voix. Racontez-moi ce qui va se passer, Benjamin, Nili, dans les mois qui viennent. 2015, forcément, il y a un troisième album qui doit arriver.
Bah oui, on va le terminer d'ailleurs.
Ah, il n'est pas fini, d'accord. Est-ce que le succès du remix de Prayer in Sea va influencer ou influence déjà les arrangements ou la production de ce troisième album ?
Pas du tout, parce que nous, pendant que le remix a commencé à marcher, on était à Bamako, au Mali, en train déjà d'enregistrer la plupart des titres du futur album. Donc c'est pour nous, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, parce que ça nous permet d'exporter notre musique ailleurs qu'en France. Mais on reste.
Mais c'est quand même pas une leçon pour des artistes comme vous de se dire on a créé une musique, une mélodie qui a eu son succès d'estime, mais qui a pas été un carton commercial, et bing, juste un producteur des arrangements et le même travail devient planétaire. Donc là, c'est là où on se rend compte que le rôle d'un producteur et de sa manière de bosser, Benjamin. J'abuse.
Non, mais je pense que là, c'est l'orientation du morceau. Ouais. Nous, on a fait quelque chose de folk et lui, il en a fait quelque chose de plus électronique. Et à l'heure actuelle, c'est peut-être quelque chose qui plaît plus à plus de monde.
Donc, vous n'avez pas envie d'aller vers l'électro, non. Justement, le
dance. Nous, on reste ce qu'on est, ce qu'on fait.
Et quand on s'était vu la dernière fois, vous disiez vouloir plutôt aller vers le hip-hop. S'il fallait aller vers un genre musical, ça sera le cas ou pas? Parce que là, j'imagine que ça sera plutôt afro.
Non, je pense que nous, on peut dire qu'on fait de la pop dans un sens très large du terme. Et là, on a injecté un petit peu de percussion et de cœur africain dans ce qu'on fait.
D'accord, ça sera quoi, début 2015?
Printemps 2015.
Il va falloir être très patient. Printemps 2015, et si vous voulez suivre Lilywood and the Prick qui sont en tournée partout en Europe et pas en France, il y a le Facebook ou le lilywoodandtheprick.com.
Ou Instagram.
Profitez-en vite parce que ça sera bientôt que Lilywood, parce qu'évidemment le puritanisme anglo-saxon fait que The Prick, qui veut dire petit con, va être au fur et à mesure effacé. Oui, c'est ça. Oh, tu veux dire quoi? La zézette, le kiki,
d'accord, ok.
Nili et Benjamin, je salue quand même Antoine et Mathieu qui vous ont accompagnés pour le live, parce que c'est important de préciser que c'était totalement live. Merci. Dans la bande originale, c'est Francis Huster qui est notre invité, puisque nous parlons de l'avenir, justement, de Lilywood and the Prick. Quel est l'avenir de Francis Huster? De refaire un film? On parlait tout à l'heure d'On a volé Charlie Spencer. On n'a pas parlé, parce que je ne voulais pas être désagréable, d'un homme et son chien qui s'était fait...
Ça n'aurait pas été désagréable. Non, Jean-Paul était magnifique dans
c'est
le
pas
film.
Ça. C'est dramatique. Ça a dû être un moment douloureux en termes de critique de ce que vous avez subi.
Ah, les critiques, ça a été terrible, ouais. Terrifiant, et avec un faux cul total, puisque tout le monde m'a reproché de prendre Jean-Paul comme s'il était un infirme, alors qu'un an après, on lui donne la Palme d'Or à Cannes, on n'hésite pas à le faire venir et tout. Il était magnifique dans le film. Et ce qui
donc
est
pour
incroyable,
eux, les critiques ont
c'est
été
que...
injustes.
Ah bah totalement, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et le film, en plus, a été la sixième recette de l'année. Donc c'est pas... Je pense que les gens, au contraire...
Mais comment vous expliquez ça aimaient... bah,
je pense que les
pas,
gens...
Ou...
Mais... Ah non, pas du tout. Je pense que les gens pensaient que c'était rendre un hommage à Jean-Paul, que de toute façon, il ne devait pas revenir au cinéma. C'est le contraire. Et ce qui est
ouais,
extraordinaire,
faire,
c'est que son interprétation...
Faire une com sur,
oui,
sur l'accident.
On n'a
pas
besoin
c'était
de
pas
ça.
Le cas. Mais alors,
et Jean-Paul...
Et Jean...
Oui, alors l'avenir, c'est très simple.
Un film ?
C'est le retour au cinéma.
Ah, voilà.
C'est le
génial.
Retour au cinéma en 2015.
D'un scénario que vous avez écrit
Ah, je peux rien dire. J'ai absolument interdiction de
non,
le
mais
dire.
Je ne demande pas le titre mais, de l'histoire. Est-ce que c'est vous qui l'avez écrit
Interdiction de qui
ben, des producteurs.
Lesquels
donc, en tout cas, c'est le retour au cinéma.
Mais
voilà.
Dites-moi juste.
Et justement,
si,
je
oui,
fous de
si
joie
oui ou non, vous l'avez écrit
Oui, Justin. Je l'ai écrit.
Bah voilà, c'est voilà, tout.
Et
ça parle de quoi
D'accord. Mais bon, j'espère que ça sera un grand film populaire.
Je vous le souhaite.
Faire
je,
un
vous
retour
souhaite.
Populaire.
Je vous le souhaite. Voilà. Je n'oublierai jamais. Je vais commencer mes phrases par je n'oublierai jamais. À vous de les conclure comme vous l'entendez, accompagné par Richard Lornac et notre Amélie Poulain nationale.
Ouais.
Je n'oublierai jamais mon jouet.
Mon jouet préféré, c'était un jokari, ça s'appelait. Je jouais pendant des heures et des heures dans la rue Alexandre Dumas, chez ma grand-mère, justement, à la Varenne-Saint-Hilaire.
C'est à l'époque où on pouvait encore jouer dans la rue, c'est ça ?
Ouais, ouais, oui, oh là là. On ne pouvait jouer que là, d'ailleurs.
Je n'oublierai jamais à l'école.
Je n'oublierai jamais à l'école François Florent. François Florent, jeune acteur de la Comédie Française, qui est venu au lycée Carnot pour faire un petit cours de théâtre. Et voilà, et parmi ses élèves, ses premiers élèves, il y avait Weber, il y avait Spiesser, il y avait Micheline Kahn. Enfin voilà, je n'oublierai jamais cet homme-là.
Weber qui vous a planté pour signer à la Comédie Française,
oui,
là, c'est
oui,
ça ?
Oui, absolument. Il a choisi d'aller vers Robert Hossein, que j'oublierai non plus jamais.
Ah, avec qui vous n'êtes pas fâché ?
Non, il n'est pas fâché, c'était juste...
Non, je ne suis pas fâché avec Jacques. On s'est embrassé justement au mariage de François Florent la semaine dernière.
Et vous l'avez vu sur scène dans Hôtel Europe,
non,
écrit par Bachel.
Non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu parce que
mécaniquement, non, mais mécaniquement, c'est pas possible en termes d'horaire.
Je ne peux pas, non, ouais, je peux pas.
C'est ça. Mais il paraît que c'est mauvais de toute façon.
Non.
Terrible ce type.
Non, c'est qu'une vanne, mais malheureusement, il y a des gens qui vont le prendre
au premier degré. Le prénom au premier degré. Il paraît que lui est très bien en tout cas.
Je n'oublierai jamais ma folie de.
Ma folie du foot. Ma folie du foot avec tous mes copains, avec Jacques Villeray. Salut Jacques. Comme a dit Balmer au mariage de Florent, Villeray s'est pas réveillé. Mais j'oublierai jamais cette folie parce que c'est magnifique. Dans les années 58, la demi-finale France-Brésil avec Coppa, Fontaine, que je salue, qui sont toujours là. Coppa, le meilleur joueur du monde en 1958. Puis Anthony, Wendling, Rotzik.
Vous avez un raisonnement sur le cycle de 20 ans dans le football?
Oui, parce que je pense que en 58 c'était la grande équipe de Suède, en 78 c'était la grande équipe de Platini, en 98 c'était la grande équipe de Zidane, de Deschamps. Donc en 2018 ça
on
sera peut-être
chances,
la grande équipe de Pogba.
On verra. Oui.
Donc c'est bon,
moi je suis
pas pour la Coupe d'Europe, du coup c'est perdu quoi.
Non, on prépare.
Franchement,
on prépare.
Je pense pas qu'avec malheureusement tu peux regarder les dernières grandes compétitions, c'est le Gaulle qui fait remporter la compétition, et pour l'instant, la France a pas encore, même si c'est un très bon gars, Loris, mais
Loris,
elle n'a pas encore le grand goal qui nous manque de stature mondiale.
Je n'oublierai jamais ma passion cachée, alors puisque maintenant le football n'est plus une passion cachée, s'il y en a une autre. Je n'oublierai jamais ma passion cachée.
Les femmes.
Je n'oublierai jamais mon regret.
Les femmes.
mon regret, c'est peut-être le dernier tango à Paris. En fait, je devais tourner le film parce que Jean-Pierre Léo. C'est parce que Jean-Pierre Léo ne voulait plus il pouvait pas le faire. Et donc, on a fait les essais avec Maria. Et au dernier moment, Jean-Pierre est revenu sur le film. J'ai été très heureux. En comparaison, je suis rentré à la Comédie Française.
Charles Esquieu demandait si c'était pour le rôle de Maria Schneider.
Non. Mais le regret, c'est de ne pas avoir tourné avec Brando.
Ah oui.
Il est précisément midi sur France Inter. Laetitia Gaillet pour l'info.
Le rendez-vous est donné à 15h pour les députés pour la deuxième fois en moins de 6 mois. Manuel Valls va donc solliciter la confiance des parlementaires, discours de politique générale. Et la question qui occupe le PS aujourd'hui et d'ailleurs depuis quelques jours, c'est de savoir quelle marge aura le Premier ministre. Combien de frondeurs vont s'abstenir? Une trentaine probablement, d'après Christian Paul, l'un d'entre eux. C'est le moment en fait où jamais, au contraire, pour Bruno Le Roux, le patron du groupe PS à l'Assemblée, il faut se ranger derrière le gouvernement. On l'écoute.
Cela devrait inciter chacun à faire, pour reprendre une métaphore sportive, Pâques dans ce moment-là, et non pas dispersion. Quand on se disperse de toute façon à la mi-temps, on a peu de chances ensuite d'aller engranger des résultats. Nous sommes dans le même groupe et je souhaite que nous soyons dans le même groupe, que nous restions dans le même groupe. Mais encore faudrait-il, pour que nous ayons envie de continuer à le faire, que nous nous retrouvions sur l'essentiel. Le débat cet après-midi, ce ne sera pas un débat pour savoir s'il faut mieux contrôler le crédit impôt compétitivité emploi. Enfin, est-ce qu'ils veulent, à une vingtaine ou une trentaine, faire en sorte qu'une majorité, c'est-à-dire les 260 autres parlementaires, acceptent leurs idées, acceptent leur politique? Quand il y a un débat, il faut qu'il y ait des règles à ce débat. Et quand on n'est pas majoritaire, juste, on fait valoir ses idées,
encore
mais
une
on
question.
Rejoint ensuite ceux qui sont la majorité.
Bruno Le Roux avec Jean-François Killy. Pour en parler tout à l'heure, Claire Servagen recevra le politologue Thomas Guénolé. On l'apprend à l'instant, le Conseil constitutionnel a décidé de déchoir Gaston Flosse de son mandat de sénateur. Le sénateur, donc Gaston Flosse, a perdu le pouvoir après avoir été condamné à 3 ans d'inéligibilité dans une affaire d'emploi fictif. Il a perdu le pouvoir, donc la présidence de l'Assemblée de la Polynésie française, puisque c'est Marcel Tuyani qui a été élu en lieu et place de Gaston Flosse, donc déchu aujourd'hui de son mandat de sénateur. On en reparlera à 13h. Au menu également du journal de 13h, la grève des pilotes d'Air France avec les prévisions de trafic pour demain. Ce sont les mêmes que pour aujourd'hui d'ailleurs. 60% des vols seront annulés selon la direction de la compagnie aérienne qui dénonce des négociations tendues avec les pilotes. Réseau ferré de France poursuivi pour homicide involontaire. RFF a été mis en examen ce matin dans l'enquête sur la catastrophe de Brétigny-sur-Orge l'an dernier qui a fait 7 morts. Et puis à l'étranger, les nouvelles frappes aériennes des États-Unis sur l'État islamique. Pour la première fois, elles se sont rapprochées de Bagdad. Dans le même temps, les djihadistes ont eux abattu un avion militaire syrien qui était en train de bombarder Raqqa ce matin. Raqqa qui est leur bastion. Le Parlement ukrainien a adopté ce matin un projet de loi qui garantit plus d'autonomie aux régions séparatistes. Kiev a aussi donné un rendez-vous le 7 décembre pour des élections locales dans ces régions de l'est de l'Ukraine. Sur le terrain du conflit, le cessez-le-feu devient de plus en plus chaotique. De nouveaux bombardements à Donetsk dans l'est du pays ont tué 4 personnes la nuit dernière. 805 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, c'est déjà trop, mais d'après la FAO, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture de l'ONU, c'est 100 millions de moins qu'il y a 10 ans et plus de 200 de moins qu'il y a 20 ans. Globalement donc, la faim a reculé dans le monde, mais les progrès réalisés masquent des profondes disparités régionales, note la FAO. C'est le cas de l'Afrique subsaharienne qui a peu progressé. 1 personne sur 4 environ est sous-alimentée dans cette partie du monde. Porter une casquette pour cacher son crâne en partie chauve à cause d'une maladie, l'idée peut paraître normale à tout à chacun. Et c'est ce que voulait faire Myriam, cette lycéenne de 17 ans à Perpignan. Mais le proviseur de son lycée l'interdit. Il ne veut pas qu'elle entre avec une casquette sur la tête. Les couvre-chefs, quels qu'ils soient, sont interdits dans son établissement. Jusqu'à l'an dernier, Myriam avait une dérogation. Ce n'est pas le cas cette année. Du coup, ses camarades se sont mobilisés hier. Reportage de Cyril Manière.
Myriam souffre d'une pelade décalvante depuis 7 ans. Avant, elle venait au lycée avec un bandana pour cacher son crâne dégarni par endroits.
Et cette année, je ne peux pas mettre de bandeau parce que j'ai perdu trop de cheveux pendant les vacances. Vous voulez voir? Vous voulez que je vous montre ou... Voilà, vous savez ça à peu près.
Des trous, des cheveux en moins sur les côtés et surtout derrière le crâne. Alors depuis la rentrée, Myriam a voulu mettre une casquette à l'envers pour tout cacher. La direction lui a reproché que ça faisait racaille. Le règlement interdit le port de couvre-chef, mais la jeune fille ne voit pas d'autre solution que la casquette.
Voilà, je préfère garder ma féminité, même si on dira que la casquette c'est très masculin. Après on me dit de porter des perruques, mais il fait chaud. On me dit de porter des bonnets, il fait chaud. Voilà quoi.
Hier, ses amis se sont mobilisés de 10h à midi. Beaucoup d'élèves ont refusé d'aller en cours et ont manifesté leur soutien.
J'ai beaucoup de soutien et je suis très surprise. Je suis trop contente.
C'est inadmissible de ne pas vouloir laisser rentrer une élève qui est malade.
Apparemment, il y a des élèves qui se sont plaints. Et ben, s'il veut pas que les élèves viennent avec la casquette ou qu'ils soient jaloux, ben, qu'ils prennent la maladie en même temps parce que c'est dur à vivre.
Ils peuvent l'interdire pour nous tous et juste l'accepter pour elles. Enfin, c'est tout ce qu'on demande. Nous, on s'en fout de porter des casquettes.
Je trouve ça inadmissible qu'elle se fasse virer.
Le proviseur campe sur ses positions par un communiqué. Hier soir, il a fait savoir que la casquette était interdite au lycée. Cyril Manière, France Bleu Roussillon pour France Inter.
Et vous écoutez France Inter, il est 12h05. Et c'est reparti pour un tour, la bande originale, la suite.
Ah. Merci Laetitia.
Il y a quelque chose entre vous.
Il va falloir surtout qu'on en parle à son mari et à ma femme. Mais ça va aller.
C'est un peu compliqué.
D'accord. Bon, à votre femme et à mon mari. On va en parler. Très bien. À tout à l'heure Laetitia, elle reviendra à 14h et entre temps à 13h, ça sera Claire Servagent qui viendra pour les infos sur Inter. Dans cette bande originale, Leïla Kaddour Boudadi, Daniel Morin, Pierre Lescure, Richard Lornac, Christophe Alévèque qui vient nous rejoindre. Bravo, on va parler des médias et Chris Esquer également. Ça va Chris ?
Ouais, ça va bien.
Bien. Il est au théâtre depuis le 3 septembre et jusqu'à fin décembre, donc il faut vite en profiter. C'est Francis Huster qui est notre invité, le joueur d'échecs de Stefan Zweig, adapté par Éric-Emmanuel Schmitt et mis en scène par Steve Suiza et au théâtre Rive Gauche. Et puis il y a ciné-musique, une immersion donc dans le 7e art avec l'Orchestre Philharmonique de Prague. Et vous êtes acteur et metteur en scène en fait de ce qui se passe à ce spectacle.
Je viens entre les grands extraits, l'orchestre énorme de Philharmonique de Prague. Derrière, il y a un grand écran avec les extraits de films dont ils jouent les bandes originales.
J'ai oublié de donner la date, c'est au Casino de Paris.
De Paris.
Et ça sera le 26 novembre.
Oui, en matinée et en soirée.
C'est ça.
Et entre les deux, j'irai jouer le joueur d'échecs.
Et peut-être
le quatrième truc.
Vous racontez des anecdotes.
Oui, je raconte des moments bouleversants de Hollywood. La malédiction des stars hollywoodiennes, tu t'aperçois qu'elles ont toutes fini de façon tragique, soit assassinées, soit elles-mêmes se tuant, soit des accidents. C'est incroyable la malédiction hollywoodienne. Alors voilà, je raconte des histoires du grand cinéma.
En tragédie, Francis Huster.
Je les vis sur scène pour l'instant.
Francis Huster, je vous cite, je crois que les femmes oublient vite à quel point elles ont pu être importantes dans la vie d'un homme. Et ça, vous l'avez dit dans une interview exclusive accordée au site paruvendu.fr. Vous revendez vos femmes par petites annonces?
Non, j'aurais bien aimé les revendre parce qu'elles étaient tellement extraordinaires que je souhaiterais aux autres de partager leur vie.
Je ne savais pas qu'on donnait des interviews, que c'était un site où on pouvait paruvendu.fr. Vous faites vos grandes déclarations.
Ils ont dû prendre ça quelque part.
Vous consultez toujours une voyante ?
Oui, Sylvana Schifano, une voyante de Marseille, extraordinaire. Ça marche, oui.
La voyante, elle avait prévu que j'allais vous poser cette question-là ?
J'espère pour elle.
Qu'est-ce qu'elle vous a dit de plus étonnant qui s'est vérifié par la suite ?
Un tournant de ma vie privée, ma séparation. Donc, alors que je ne pensais pas du tout qu'on se séparerait.
Ça arrive. 90% des couples se séparent, donc ça ne s'est pas trop mouillé là-dessus.
Ouais, mais c'était assez précis quand même.
Ah ouais, les autres, vous consultez des voyantes ?
Pas du tout.
Et non, pour des raisons. Non, directement.
Ouais. et pour des raisons professionnelles, il y a des choses qui se sont vérifiées ?
Oh oui, oui, aussi, beaucoup, oui, bien sûr. Sinon, j'aurais pas arrêté. Des choix, tout d'un coup, j'hésitais sur telle ou telle pièce, et elle me disait, non, ça sera celle-là qui sera choisie. Et là aussi, j'y pensais pas du tout, mais c'est vraiment par le destin que c'est arrivé.
Ah, vous avez longtemps déclaré que vous vouliez être un peu médaille d'or dans ce métier. Qu'est-ce que ça veut dire être numéro un dans ce métier?
Oh, ça veut dire que c'est par rapport à l'athlétisme, c'est pas par rapport aux autres. Tu choisis de décider soit de faire la course, soit à la paire, soit etc. Moi, j'ai décidé de faire le théâtre. Et j'ai pensé que, comme Gérard Depardieu a pensé que lui, son chemin était plus au cinéma, comme d'autres pensent que leur chemin est plus en tant que metteur en scène. C'est simplement aller jusqu'au bout de tes rêves, quoi.
Ici, on a une belle médaille de bronze. Et à midi, à midi 10, on l'entend parler tous les jours.
Une médaille quand même.
C'est Daniel Morin.
Merci, jeune homme. Attention, aujourd'hui, alerte à la pollution en Île-de-France. Eh oui, une alerte aux microparticules. Évitez d'utiliser des véhicules trop polluants. Alors on notera la réaction ultra rapide d'Air France qui annule 60% de ses vols. Ah, voilà une grève qui tombe bien. Si vous devez utiliser la voiture, pensez au covoiturage, bien entendu. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on n'en profite pas de cette grève d'Air France pour lancer le coavionnage ? Au lieu de faire voler des avions moitié vides sur une destination, tu bourres les avions et tu fais plein d'escales.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord de cet Airbusco avionnage A380 d'Air France à destination de Marseille. Cet avion desservira les aéroports de Lille, Mulhouse, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Rennes, Brest, Nantes, Bordeaux, Biarritz, Toulouse, Perpignan, Ajaccio, Nice, Saint-Étienne, Lyon, Dijon et La Villette. Le temps de vol prévu avant d'arriver à Marseille est de 13h45. Je vous rappelle que ce vol est non fumeur et qu'en cas de forte affluence, les passagers en zone économique sont invités à voyager debout. Si vous comptez aller aux toilettes, merci de donner votre carte d'embarquement à l'hôtesse qui procédera au tirage au sort des 20 personnes qui auront le droit d'aller à l'unique chiotte prévue pour les 1643 passagers. Au cours de ce vol Air France, on vous offre aujourd'hui la diffusion audio du joueur d'échecs lu par Francis Huster. Ce qui vous permettra de vous endormir en moins de 3 minutes.
D'accord.
Bon okay. Vol et merci d'avoir choisi Air France.
Merci, j'ai bien fait de venir.
En temps de crise climatique et économique, hein, quand on se creuse un peu la tête, on finit toujours par trouver des solutions très citoyennes. Toujours dans l'actualité, passons au chapitre vote de confiance. C'est cet après-midi que Manuel Valls va se soumettre et sa politique à la confiance des députés. Moi, je trouve ça bien, le vote de confiance. C'est une vraie preuve de démocratie. On devrait faire ça pour plein de trucs. À la maison, la femme devrait régulièrement soumettre sa politique de gestion du foyer au vote de confiance du reste de la famille. Ça mettrait parfois les pendules à l'heure, et même si l'issue est douloureuse, c'est plutôt ça.
Non.
Bon, voilà Bobonne, voilà le résultat du vote. C'est tombé. À la question « Faites-vous toujours confiance à maman ?», les enfants ont répondu non à 75%. Pour rentrer dans le détail, ta politique d'utilisation quasi quotidienne de produits surgelés déplaît à tout le monde. On notera aussi parmi les reproches ton manque de vigilance en ce qui concerne le rinçage de la vaisselle. Les cuillères ont parfois un arrière-goût de pec citron. Ton manque de rigueur esthétique te coûte cher également. Les enfants disent qu'ils ont honte à 80% quand tu vas les chercher à l'école. En ce qui concerne la question « Ta femme remplit-elle correctement ses devoirs de bonne épouse ?», j'ai répondu non à 85%. Les 15% de satisfaction étant les œufs au plat du dimanche matin, la seule chose que tu ne rates pas. Conjugalement, tu remplis tes tâches à 65%, c'est pas mal. C'est vrai que j'apprécie particulièrement qu'au milieu de nos ébats, tu fantasmes sur un autre et que tu te mets à crier.
Oh oui, vas-y Pierre Lescure, prends-moi comme une paillasse. Fais-moi mal, déglingue-moi, donne-moi des ordres en yougoslave. Avec toi, je suis plus chaude qu'un journal du Herd.
Ça, je kiffe. Je kiffe encore plus quand tu es déchaîné et que tu te tords dans tous les sens en hurlant.
Ah oui, c'est bon, vas-y Francis Huster, vas-y l'artiste, blasphème-moi à la Red Zed Show, humilie-moi Cyrano, gros salaud. Viens, on va faire l'amour à la corneille, on va se faire le site classé X. Accoucher sans péril, on fait l'amour sans gloire. Tu es jeune, il est vrai, mais aux âmes bien montées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Oh rage, oh désespoir, oh vieillesse ennemie, il est où mon Viagra, sans lui je suis maudit. Vous n'êtes que 500 à convoiter mon corps, et moi j'en veux 3000 excités comme des porcs. Vas-y Francis, mets-moi le feu aux planches.
J'aime les classiques. Malheureusement, Moumoun, tu n'atteins pas la majorité à ce vote de confiance. Du coup, et conformément à la constitution qui régit cette maison, tu dois partir. Ta mère est au courant, elle t'attend. T'attends dehors, ta valise est déjà dans la voiture. Je sais pour toi, ça va pas être facile de te recaser, mais c'est la vie. Sache que les enfants et moi, on gardera quand même un bon souvenir de toi. À titre de clin d'œil, je te rends quand même un hommage indirect. Pour te remplacer, toi qui as 46 ans, je vais prendre deux étudiantes âgées de 23 chacune. Allez, courage, ma bécasse. À demain.
Merci Daniel. Daniel Morin. Francis Huster. Je déteste, vous dites, je déteste la vie, sinon je n'aurais pas fait ce métier. Je ne supporte plus la vie, ça fait un bon moment que ça dure. Vous n'êtes pas bien du tout alors là.
Non mais je pense que c'est la vie de tout le monde. On est assez humilié par tout ce qui se passe dans le monde. On a l'impression que c'est un monde qui disparaît.
Comment vous tenez?
Donc je trouve ça. Je tiens parce que j'ai la chance justement de.
Pas de médoc.
D'être dans un. Ah si, mon médicament c'est Molière, c'est Shakespeare, c'est Schmitt là, et Zweig. C'est un métier magnifique parce qu'il te fait rêver, il t'emporte ailleurs. Mais c'est vrai que beaucoup sont comme moi dans ce métier en tout cas, on le fait pour échapper un peu à la vie malheureusement que d'autres sont obligés de subir. Et puis on essaye de les faire rêver justement, c'est pour ça qu'il y a tant de public. Je tire un coup de chapeau d'ailleurs à Jacques Dreyfus qui est le président du Festival de Colmar et qui justement à l'ouverture de ce festival depuis des années sur le cinéma, sur la télévision, avec un public populaire, tient ce genre de discours que tout le monde doit à la fois respecter ceux qui font ce métier, mais aussi le public a le droit de rêver.
Ok, Assez, beaucoup de remerciements. J'enchaîne sur une autre question.
Oui.
Au moment de votre départ de la Comédie Française, vous écrivez, c'est moi, à Jacques Taujal, directeur de l'époque,
oui.
« Ma vie est de création et j'ai plus besoin de faire œuvre d'artiste que de comédien-interprète. » Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que vous faites la distinction entre les deux. Vous pouvez détailler ? Souvent, les comédiens disent, on les englobe dans, et après, je demanderai à Pierre ce qu'il en pense, Lescure.
Mais non, mais un comédien, c'est un gant, c'est quelqu'un qui exécute des ordres, tout en... C'est un métier magnifique parce que tu es justement un ouvrier du personnage, un ouvrier de l'auteur, alors que le metteur en scène, c'est celui qui essaye d'influencer une œuvre pour essayer de marquer une génération. C'est tout à fait autre chose, c'est un autre état d'esprit.
Et en même temps, vous considérez Belmondo comme un artiste total?
C'est un magnifique acteur tragique. Ça n'est pas un... Je veux dire, il y a des acteurs comme Belmondo, on peut en parler de Brando justement. Il ouais. a fait un film, Brando, qui était bien, Vengeance au deux visages. Mais il y a des... Tout le monde n'est pas Clint Eastwood, tout le monde n'est pas, n'a pas cette fibre. Les acteurs sont là pour faire rêver, alors que je pense que les metteurs en scène sont là comme des chirurgiens pour vraiment changer le monde. Et il y en a qui parviennent à changer le monde.
Non, puis il y avait une grosse différence avec d'autres sociétaires, même s'ils étaient magnifiques du temps de Jacques Taujat, c'est que Huster voulait toucher à toutes les formes de spectacle vivant. Et forcément, il y avait une petite limite dans le cadre magnifique de la Comédie Française.
Oui.
Et vous avez réussi finalement en tant que créateur ?
Écoute, j'ose pas le dire, mais...
Oui.
Mais oui, c'est petit grave.
Je veux désembourgeoiser le théâtre qui ne doit pas être réservé à une caste. Vous y êtes parvenu ?
C'est pas, je ne suis pas parvenu personnellement, mais d'autres y sont parvenus. On a fait un combat magnifique. Écoute, franchement, tu peux venir au théâtre pour 10 euros. Tu peux venir au théâtre, tu peux... vraiment
41 euros, là, pour voir votre
non,
pièce.
Non, 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 c'est pas vrai.
Si, c'est vrai.
Non, 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 c'est pas vrai. Tu peux téléphoner tout de suite, tu auras du mal, parce qu'il y a 24... Là, tu vas te faire griller, parce que...
J'ai vérifié avant.
Non, 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 tu as mal vérifié, on peut téléphoner.
Non, c'est le prix maximum, je n'ai pas dit que c'était le prix minimum.
Ah non, 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 c'est-à-dire que là, par exemple, depuis 3 semaines, depuis 15 jours, on est complet. C'est des places à 50%, donc il y a tout un public qui le sait. Et puis après, ça va continuer encore pour le théâtre. Non, non, le théâtre privé fait des prix absolument extraordinaires.
Quand c'est des places à 50%, vous dites tout le texte.
C'est génial.
Bravo. Allez, on écoute Julien Clerc maintenant.
On ne se méfie jamais assez. Les alarmes, les sirènes de pompiers. L'amour a-t-on fait de les faire taire? L'amour fait tomber toutes les barrières. Hey, hey, je suis tout à toi, j'ai dit. Hey, hey, hey. Et tout de moi, elle a pris ma tête et j'y
C'est toujours la bande originale avec Francis Huster. Il y a aussi Leïla Kaddour, Daniel Morin-Boudadi, Richard Lornac, Pierre Lescure et aussi maintenant pour la chronique média, le moment média, Christophe Lévesque. C'est à toi, Christophe Lévesque.
Bravo Christophe.
Ah oui.
Merci. Merci.
Vas-y.
Merci. Les médias... Les médias bruissent, les médias chauffent, s'excitent, la sauce monte, monte. Le suspense est à son comble. Nicolas Sarkozy, va-t-il revenir en politique? On le voit partout depuis 2 ans, Nicolas en vacances, Nicolas en voyage, Nicolas en conférence, Nicolas au foot, Nicolas fait du jogging, Nicolas au théâtre. Oui, au théâtre. Oui, au théâtre, comme tout le monde le sait, Sarkozy est un homme de culture. Un livre pour lui, c'est un truc, il monte dessus pour allumer la lumière. Le feuilleton est quasi quotidien, filmé par des médias plus que complaisants. Voilà, il veut apparaître comme un homme neuf, alors qu'on en est déjà à une overdose médiatique. Mais il va nous sortir son fameux « J'ai changé ». Vintage. Plus la ficelle est grosse, plus le con grimpe à l'arbre. Le sauveur de la nation, le messie en talonnette, l'homme providentiel, le Zébulon de Neuilly, va... revenir ! Fin du suspense. Journaliste, vous pouvez arrêter de vous palucher. Et pourtant... Oui, j'ai fumé ce matin. N'est-ce pas lui qui déclarait la main sur le cœur et le cœur dans la poche en 2012 ?
Si vous perdez cette élection présidentielle, est-ce que vous arrêtez la politique ?
Oui. Et donc c'est très simple, je dis aux Français, je me battrai de toutes mes forces pour avoir votre confiance, pour vous protéger, pour vous conduire, pour construire la France forte. Mais si tel n'est pas votre choix, ben je m'inclinerai. Et c'est ainsi. Et j'aurai fait une très belle vie politique.
Eh ben, on s'en est pas aperçu. Il a dû gagner l'élection. Avant même d'avoir le début d'un commencement de programme, il ne tient déjà pas ses promesses. C'est bien lui. Mais s'il revient, ce n'est pas pour lui. Non. C'est par devoir. À défaut de la France, la meute le réclame.
Nicolas Sarkozy est le seul...
Ah, Fritz, hantefeu. Souvenir. Et qu'est-ce qu'il a dit, Luc Chatel?
Le jour où il aura des choses à dire aux Français, il s'adressera aux Français.
Eh ouais, pas la moitié d'une truffe. Et la grande Nadine Morano, qui a déclaré... Voilà. Tata Yo-Yo. Mais qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Rien. C'est marrant, mais quand on entend tous ces noms, Fritz Hortefeux, Klaus Guéant, Luc Chatel, Morano, Henri Guénaud, Xavier Bertrand, David Douillet, 2 mètres, 3 neurones, Rachida Dati, Laurent Wauquiez, que les trisomiques du monde entier nous envient, et qu'on pense au bilan de Hollande, eh ben on se dit, finalement, c'est pas si mal. Attention, danger. Nous vivons un moment historique. D'habitude, nous avons, à tour de rôle, la gauche la plus nulle du monde, puis la droite la plus nulle du monde, et ensuite la gauche la plus nulle du monde, et la droite la plus nulle du monde. Et bien là, c'est les deux en même temps. Youpi! Alors attention, Nicolas ne revient pas tout seul. Il amène avec lui la batterie de casseroles qu'il a au cul. Que dis-je? Une cuisine. Dans le désordre, je vais demander au public de faire olé à chaque fois, ça passe mieux. Attention, c'est parti, les sondages de l'Élysée. Oui. L'arbitrage tapis. Oui. Le financement de la campagne 2007 par Kadhafi. Oui. Big Malion et ses fausses factures. Oui. Bettencourt et les écoutes. Oui. Colombia et Qatar. Oui. Olé. On ne peut pas dire qu'il revient aux affaires, il nage dedans. Alors, pour sa déclaration de candidature, il veut surprendre. Il l'a dit. Eh bien, j'ai une idée, Nicolas. Renonce. Pourquoi ce retour? Qu'il continue à faire ses conférences à 100 000 euros et qu'il aille voir sa gonzesse chanter. Ils sont beaux tous les deux, elle chante, il est au premier rang. Oui, il est pas con au fond, on n'entend rien. Sinon, autre idée pour surprendre, mais surprendre vraiment. Faire son annonce au milieu du film de boules de Canal+. Imaginez. Flash spécial. Mes chers compatriotes, j'ai décidé par devoir de revenir pour sauver mes fesses et la France. Ça suffira, Jeannine. Sinon, cet après-midi, c'est le vote de confiance au gouvernement. Que va-t-il se passer? Rien. Valls va chanter au frondeur à la tribune de l'Assemblée nationale cette chanson. Ça ira mieux demain, à vous. Ça ira mieux demain. Comme tout finira bien, il faut profiter du jour qui vient. Soin, soin.
Bravo. Merci, Christophe Lévesque. Au Bataclan le 6 octobre. Leïla ?
Une petite réaction, Francis Huster, à l'actualité politique française, parce que vous parlez beaucoup de l'étranger, de ce qui se passe dans le monde, mais en France.
Ah, moi, je pense que ce n'est plus une question de gauche ou de droite. C'est une question d'un chemin à prendre. Et si la France prend pas ce chemin, elle ira nulle part.
Oui, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il faut construire l'Europe et que la France ne peut pas s'en sortir tout seule. Et je dois dire aussi que je profite de l'émission pour tirer un grand coup de chapeau à Angela Merkel, ce qu'elle a fait en Allemagne, de défiler contre le nazisme. Et je trouve que là, elle a fait un geste qui n'est pas du tout politique, oui, d'ailleurs, qui est un geste personnel.
Mais c'est notre invité la semaine prochaine.
Emmanuel Schmitt est centriste. Il faut forcément être centriste quand on travaille avec lui.
Qui t'a dit qu'il était centriste?
C'est lui qui l'a dit. Emmanuel Schmitt, c'est lui qui l'a dit.
Centriste, ça veut dire au point de vue politique?
Oui. Oh c'est non, lui qui l'a dit.
Il n'y a aucun problème à travailler avec Éric Emmanuel, quelle que soit sa couleur politique. Ça n'a rien à voir. Par contre, pour travailler avec Éric Emmanuel, il faut. Faut aller à 100%, c'est quelqu'un de très exigeant et il n'a pas la langue dans sa poche, comme vous avez pu le constater.
Et si on revient rapidement,
faut tout lui donner.
Comme si Daniel, on n'a plus le temps parce qu'il est l'heure d'être désolé et Daniel.
Oui, je suis désolé pour toute l'équipe. Alors désolé déjà pour Alain Delon, on a dit beaucoup de conneries sur vous, très cher Alain. Promis, si vous venez ici en tant qu'invité, on dira plein de saloperies sur Francis Huster. Désolé, désolé pour Molière, Shakespeare, encore Zweig, qui ont été réduits par Francis Huster à de vulgaires médicaments style Fervex, Aspégic ou Préparation H. Et désolé enfin pour ceux qui vont aller voir l'Orchestre Philharmonique de Lille interpréter les classiques du cinéma. Vous l'aurez compris.
De Prague, pardon,
vous avez compris. Vous allez être obligé, entre chaque titre, de vous fader. Francis Huster.
Merci Daniel Morin, merci le public. Demain, merci. Nagui recevra Patrick Bruel, il y aura aussi Philippe Labro. Merci beaucoup,
merci.
Francis Huster.
Merci beaucoup.
Et maintenant, il est l'heure d'accueillir Philippe Bertrand.
Oui, Chris, bonjour. Bonjour à tous.
Qu'est-ce qui se prépare aujourd'hui dans Carnet de campagne?
Plein de choses, mais je ne vous le dis pas.
Bon, très bien. Alors, on va découvrir ça tout de suite.
En revanche, j'ai écouté Francis Huster, ça m'a donné une idée. Je crois que je vais consulter une voyante aussi.
Pourquoi? Ah oui.
Parce que l'amour est aveugle.
Parce que l'amour est aveugle.
Magnifique. Oui.
Non, merci ben, Philippe.
On poursuit dans le carnet de campagne. À tout de suite.
À bientôt.
À demain.
À bientôt.
France Inter, il est midi et demi.